Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Si l'histoire de la Terre a plusieurs milliards d'années, l'Homo sapiens, lui, n'est apparu qu'il y a seulement 195 000 ans, très lointain cousin du singe, avec des guillemets bien sûr. L'homme ne serait-il pas pourtant un peu plus que cela? C'est un peu dans le fond, le différent qui oppose depuis près de deux siècles maintenant les partisans d'une théorie de l'évolution qui exclut toute idée de transcendance, et l'Église catholique qui considère que réduire l'homme à un hasard de la nature est pour le moins un peu court. Alors que dit l'Église de la théorie de l'évolution? Serait-elle créationniste ou bien en faveur du fameux dessin intelligent? Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin, donc théorie de l'évolution, que dit l'Église? Je reçois Jacques Vautier, qui est ancien directeur du département mathématique de l'université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Paris 6, et auteur donc entre autres d'un ouvrage intitulé « Créationnisme, dessin intelligent, darwinisme et la science dans tout ça ». Bonjour.
Bien le bonjour.
J'ai oublié de dire, l'éditeur en l'occurrence c'est François-Xavier de Guibert dans la collection Religion. Alors, peut-être pouvez-vous déjà rebondir sur cette rapide introduction, Jacques Vautier, et nous rappeler les termes du débat que va aborder l'émission de ce matin. On sait dans l'Église en fait que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on lit dans la presse, mais malgré tout dans l'opinion publique on en reste en fait à une primeur à la théorie de l'évolution, on va dire.
Oui, alors la théorie de l'évolution, faut accrocher un wagon, si je puis dire, c'est darwinisme. Ce qui est déjà un premier paradoxe, parce que Darwin est un monsieur qui était donc milieu du 19e siècle, qui était un scientifique tout à fait respecté et respectable par rapport au travail qu'il a pu faire de classification des espèces, enfin des ce qu'il appelait les variétés plutôt, et qui a donné lieu donc à un adjectif et un nom. On est darwiniste et on fait partie du darwinisme. Alors que si vous prenez par exemple Einstein, qui a quand même aussi révolutionné un petit peu le domaine scientifique de la physique, on n'a jamais parlé d'einsteinisme. Donc on voit qu'il y a déjà un impact très fort, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir pourquoi cet impact est aussi fort. Pourquoi ? Parce que ça touche l'homme. Évidemment, c'est beaucoup plus sensible que de toucher les électrons. Les électrons, c'est des petites choses, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas ce qui nous touche nous directement profondément, en particulier par rapport à ce que l'on est et par rapport à notre destin. Or, la position darwinienne de Darwin, ça a été une cassure radicale qui a consisté à dire, en fait, nous sommes issus du hasard et nous allons nulle part. Et donc, le matérialisme profond qui est sous-jacent, qui est un matérialisme que l'on rencontre encore maintenant, qui est diffusé, vous pouvez pas, je pense, par semaine, vous devez entendre au moins une fois le mot darwinisme. Pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire les torts, même les théories deviennent darwiniennes, c'est-à-dire elles s'autodétruisent, si vous voulez, puisque le darwinisme, pour remettre un peu les choses au clair, le darwinisme se repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est une sélection naturelle, c'est-à-dire il y a une sorte de mécanisme qui fait que nous allons vers quelque chose qui est de plus en plus évolué. Par exemple, depuis le fossile de Lucie, qui en avait été trouvé par Yves Coppens, vous savez, qui a été sa grande découverte et qui lui a donné une chaire au Collège de France. Donc, depuis Lucie, donc une sorte de petit singe, c'était une petite dame qui se promenait dans la savane, jusqu'à l'homo actuellement. Évidemment, il y a un mouvement qui est un mouvement de continuation, d'évolution. Et c'est visiblement quelque chose qui s'améliore. On est passé quand même d'un état très très primitif à quelque chose qui est un homme, bon, qui réfléchit en particulier. Bon, et d'autre part, le deuxième pilier, donc à côté de cette transformation, il y a la sélection. La sélection est struggle for life, dit Darwin, c'est-à-dire la lutte pour la vie. C'est-à-dire c'est brutal. Cette évolution, si vous voulez, qui se fait, a un censeur qui s'appelle la mort. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire c'est la mort qui dit, ah ben non, ça marche pas bien, on le tue, on le détruit. C'est aucune...
Donc, vous voulez dire qu'on le lit souvent dans la presse aujourd'hui, parce que c'est devenu une expression en fait courante qui dit la réalité purement matérialiste du monde dans lequel on vit. En fait,
exactement. C'est-à-dire que tout ce qui est en phénomène d'évolution, avec effectivement une destruction ou une évaluation d'une capacité d'être meilleur qu'ailleurs, on va l'appeler darwinisme.
Alors, peut-être faut-il commencer par les débuts. Alors, je vous préviens, vous allez nous aider. J'ai lu votre ouvrage passionnant. Un petit peu trapu par moment, quand même, il faut le dire un petit peu à nos auditeurs. Mais non, c'est nous qui nous excusons de pas être peut-être aussi cultivés que vous. Vous parlez, entre autres, d'un homme, donc, qui est probablement, beaucoup moins connu que Darwin. Enfin, de quelques noms clés au début de votre ouvrage, dans un chapitre qui s'appelle Théorie de Darwin. Vous dites un peu d'histoire. Et alors, vous commencez cette histoire en nous parlant d'un certain Linné qui lui en fait a proposé une classification des espèces végétales et animales. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet homme et pourquoi est-ce que vous le citez au début de votre
ouvrage ? Alors c'est intéressant parce qu'au côté à côté de mon université, donc Pierre et Marie Curie, il y a une série de rues. Vous avez la rue Linné, vous avez la rue Cuvier, et vous n'avez pas la rue Darwin, voilà, échappée belle si je puis dire. Mais on a aussi, pas très loin, une rue qui est la rue Buffon. Donc, si vous voulez, c'était au niveau du 18e siècle, les gens ont commencé à trouver des fossiles et des restes. Donc, ils se sont dit, c'est bizarre. Et donc, Buffon en particulier écrit dans ses œuvres.
Vous voulez dire qu'on n'a jamais trouvé de fossiles avant ?
Si, on en avait trouvé, mais on avait dit, oui, c'est des cailloux. Enfin, si vous voulez, on avait trouvé, en fait, des fossiles de mollusques, vous voyez, des coquilles, quoi. Bon, on en trouve encore, hein. On peut en acheter sur les marchés, même. Bon. Et donc, ces coquilles étaient apparemment de plus en plus compliquées. Donc, on s'est dit, tiens, c'est bizarre d'où ça sort. Alors, il y avait une explication qui était une explication un peu stupide, mais qui valait ce qu'elle valait à l'époque, qu'on disait c'était les restes du déluge. C'est-à-dire l'eau s'étant retirée, bah on retrouvait des coquilles, quoi. Bon, évidemment, on n'avait pas encore l'idée de ce que pouvaient être des mers qui s'étaient retirées pour des raisons de tectonique des plaques. Enfin, c'est une autre histoire. Bon, et donc Buffon dit c'est bizarre, et donc il relit Genèse 1, le fameux texte de Genèse 1 dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, qui dit il y a eu des créations d'espèces. Et alors Buffon dit mais c'est bizarre parce qu'en fait le leitmotiv, vous savez, il y a une espèce de ritournelle dans le Genèse 1. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc il se dit, c'est visiblement ces cailloux sont des cailloux beaucoup plus anciens que ce qu'on imagine. C'est-à-dire, à cette époque-là, on pensait, il y avait des théories comme quoi la Terre avait 4000 ans. Hein, donc c'était vraiment pas beaucoup. Donc il dit, c'est pas possible ça. Alors est-ce que par hasard, les
nuits... Au 18e siècle, on croyait que la Terre avait 4000 ans.
Oui, c'est ça, parce qu'ils avaient fait des calculs avec toutes les généalogies. Vous voyez, on prenait toutes les généalogies depuis Adam, on calculait en gros ce qu'il en était, puisqu'on avait les âges. Hein, Adam a vécu, je ne sais plus, 800 ans, enfin, je ne sais plus. Donc on regardait tout ça, on empilait tout ça, on avait une date. Bon, vous savez qu'il y a encore des fondamentalistes américains qui sont convaincus que c'est ça la réalité. Bon,
on en parlera plus tard.
Un autre problème. Ouais. Et donc Buffon et Linné, qui font des classifications extrêmement pointues, c'est-à-dire ils font une différence entre une renoncule, par exemple, et un pavot, c'est pas la même fleur. Bon, ils regardent ce que c'est qu'un bégonia, c'est pas la même chose que, mettons, une fleur de lys. Bon, donc tout ça, ils commençaient à les mettre dans des cases et à les organiser. Ça, c'est le gros travail de Linné, mais sans réflexion ultime, s'il est. Alors que Buffon dit... Sans doute que c'est pendant la nuit que ça devait se faire ça devait être plus long les nuits, parce qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Ils ont pas dit, vous voyez, il essayait de gloser sur le texte biblique qui était toujours sur ce sur quoi on s'accrochait. Bon. Et c'est à partir du début du 19e siècle, et ça a été la rupture de Darwin, c'est de dire Genèse 1, c'est du pipeau, ça ne tient pas la route, ça ne correspond à rien, et donc revoyons les choses autrement.
Alors donc, juste avant qu'on arrive à Darwin, donc Linné et Buffon, c'est donc classification des espèces et hypothèse évolutionniste, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc on disait, plus c'est compliqué, plus c'est récent. Moins c'est compliqué, plus c'est ancien. C'est-à-dire on relevait la complexification, si vous voulez, dans le temps. C'est-à-dire on regardait, on disait, bon, bah, évidemment, l'homme est très compliqué, donc il arrive à la fin. Mais si je prends, par exemple, un mollusque, bon, bah, c'est assez primitif, donc ça doit être très ancien. Donc, on regardait les choses et il les classait comme ça. Bon.
Alors, un peu plus loin, avant qu'on arrive à Darwin, vous parlez d'un autre scientifique qui s'appelle Lamarck. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que Lamarck a apporté à
Lamarck, c'est le premier qui commence à dire, il faut comprendre pourquoi les espèces sont comme ça. Alors, il prenait l'exemple de la girafe. Alors, pourquoi est-ce que la girafe a un grand cou ? Réponse de Lamarck, ah ben bien sûr, c'est parce qu'elle veut aller manger les feuilles qui sont très hautes. Donc elle a tiré, en quelque sorte, tiré sur son cou et les générations successives ont entériné le processus. C'est-à-dire, les girafes ont eu un coup de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'elles atteignent effectivement les feuilles qu'elles voulaient atteindre. Après, ça s'est arrêté parce que c'était pas la peine d'aller au-dessus des arbres. Bon, donc la position du lamarckisme, c'est une position qui est une position de, en quelque sorte, d'adaptation à la contrainte de l'espace, si vous voulez, qui fait que les espèces s'ajustent, quoi. S'ajustent.
Donc Linné, classification des espèces, Buffon, hypothèse de l'évolution, et donc Lamarck,
Lamarck, c'est adaptation. Premier début d'explication qui est juste avant Lamarck, c'est donc le début du XVIIIe siècle, et qui arrive juste avant Darwin. Et Darwin va être beaucoup plus radical.
Voilà, alors donc Linné et Buffon, donc ils naissent en 1707.
Voilà, oui.
Voilà, Lamarck qui donc est né en 1744, et donc on arrive à Darwin, 1809.
Voilà.
Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si nous avez dit un peu les deux grands traits qui marquent la théorie darwinienne. Je sais pas si exactement, justement, je fais attention au terme depuis que vous m'avez dit qu'il fallait faire attention. Qu'est-ce que Darwin vient ajouter à ses précédentes découvertes scientifiques?
Alors, Darwin arrive dans un siècle qui est donc à la suite du XVIIIe siècle, qui était donc le siècle des remises en question. Hein, ça a été le siècle qui est la suite des grandes découvertes de Newton, donc de Kant qui formalise en quelque sorte la question par la théorie de ce qu'on appelle le kantisme, donc la théorie de la critique, puisqu'il n'y avait plus que ça à faire, et le truc était donné, donc il n'y avait plus qu'à critiquer. Et ensuite, on voit arriver donc au début du XVIIIe siècle le problème de la vie, le problème donc de ces fossiles, de la vie, de ces espèces. On regarde, on les voit, on les classifie, on est capable de regarder. Et donc Darwin part sur un bateau, bon, et il fait le tour du monde, et il arrive donc aux Galapagos, où il rencontre des pinsons. Alors c'est les fameux pinsons de Galapagos, où il y a trois sortes de pinsons. C'est des pinsons, mais ils n'ont pas le même bec. Ils ont un bec qui est un bec, une espèce de clé, enfin de casse-noix, si vous voulez, quand ils sont au bord de l'eau, parce qu'il faut qu'ils mangent des mollusques, donc ils cassent les coquilles. Ensuite, il y a ceux qui sont un petit peu plus à l'intérieur, qui ont un bec un peu plus pointu, parce qu'ils attrapent des vers de vase. Et puis, il y a ceux qui sont dans la forêt, qui, eux, mangent des bons braves insectes, donc ils sont avec un bec normal. Donc, il se dit très, très, très intéressant. Il y a donc une adaptation donc d'une même espèce à des contraintes, donc effectivement suite de Lamarck qui disait ça, mais il dit
seulement lui le dit pour une même espèce, c'est ça?
Voilà, et il le dit de manière encore plus radicale. Alors il le dit encore de manière plus radicale parce que il veut essayer de comprendre donc ce mécanisme de ce qui n'appellera pas encore tout de suite l'évolution. Il veut en fait montrer que ça peut pas, les espèces ne sont pas sorties comme ça, comme d'un chapeau, comme d'un vrai véritable chapeau. Ce que dit Genèse 1, à savoir Dieu créa, vous savez, les espèces, etc., les unes à côté des autres, donc elles sont sorties comme ça d'un seul coup. Lui, il dit pas du tout, il y a eu une modification, et cette modification, il faut que je l'explicite. Alors, il explicite comment? C'est un lecteur de Malthus. Alors, Malthus est un personnage un peu piquant, parce que c'est un vénérable révérend anglican.
Il y a aussi donc une expression, le malthusianisme.
Le malthusianisme, absolument. Donc on dit, c'est par exemple une théorie malthusianiste, c'est une théorie qui va limiter les populations. Bon, alors le pourquoi de cela, eh bien c'est parce que Malthus était un révérend qui était en charge d'une paroisse, et à ce moment-là, le roi d'Angleterre avait pris un décret comme quoi les paroisses devaient s'occuper des pauvres, parce qu'il en avait assez de payer de l'argent pour essayer de subvenir aux besoins de sa population. Donc il a dit, très bien, ce sont les paroisses qui vont s'en occuper. Alors Malthus a dit, oh là là, oh là là, oh là là, pas question, je vais regarder ce qui se passe. Et donc il a regardé, en fait, la population de pauvres qui était sur sa paroisse, et s'est aperçu que, compte tenu des contraintes, et vous savez, c'était quand même l'Angleterre du 19e siècle, c'est-à-dire les travaux épouvantables pour les enfants qui travaillaient dans les mines, c'était donc la révolution industrielle, et donc il y avait une pression sociale qui était extrêmement forte, et relire les Pickwick Papers en particulier, enfin toute la littérature de l'époque. Et donc il se dit, je vais regarder, et il s'aperçoit que au bout d'un an, il y a 99% des enfants qui meurent. Ben, il dit, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à attendre. Et donc, il y a effectivement une sélection naturelle, une sélection qui est une sélection drastique, qui est une sélection de la lutte pour la vie. Il y a les meilleurs qui passent et puis les autres meurent.
Donc, les meilleurs, les plus costauds.
Les plus costauds, voilà, c'est ça, absolument. Et donc, Darwin en fait une première partie de son pilier de théorie.
Alors là, vous, en préparant l'émission, vous disiez que ça, c'était votre interprétation. Est-ce qu'il y a des choses qui...
Alors, il y a une...
Qu'on sait, qu'il s'est inspiré, qu'il y a eu un pont entre les deux.
Alors, ça se trouve, en particulier, j'ai peut-être un peu tiré la ficelle à la suite de Gilson, mais c'est dans Gilson, dans son livre, qui s'appelle D'Aristote à Darwin et
Gilson,
retour.
Rappelez qui est-ce.
Donc, Étienne Gilson, qui a été donc le titulaire d'une chaire de philosophie au Collège de France, qui était un de nos grands philosophes donc en particulier spécialiste de la philosophie médiévale au début du XXe siècle. Donc personnage qui est très très respectable du point de vue de la puissance de sa pensée. Et donc le deuxième volet, c'est de, mais ça on est sûr, parce qu'on a les références. Hein. On sait que Darwin a lu, il a fait des notes, il a mis des notes par rapport à la lecture de Malthus. Donc on est sûr qu'il a lu Malthus.
Alors du coup, cette précision faite, quelle influence donc sur les découvertes scientifiques de Darwin ?
Ça a été le premier élément. Puis après, comme il était à la campagne, il voyait qu'il y avait des éleveurs qui faisaient de la sélection pour améliorer les espèces. Donc par exemple, des vaches qui avaient plus de lait, des chevaux qui couraient plus vite, etc. Et il s'est dit, ça y est, j'ai trouvé le système. Si je mets les deux en même temps, l'évolution est en fait un mécanisme qui marche de manière aléatoire, c'est-à-dire, il faut faire très attention, c'est qu'il y a le hasard qui intervient de manière formidable dans l'histoire. Donc, de manière aléatoire, il y a des modifications qui se font, et la modification est plus ou moins bonne si il y a effectivement une espèce qui continue, qui survit en quelque sorte. Et donc, c'est effectivement le malthusianisme qui va jouer, c'est-à-dire la mort, qui va dire, ah ben non, ça marche pas, c'est pas au point, donc c'est pas la peine de continuer à gloser sur le sujet. Donc on voit les deux éléments, modification aléatoire, ça c'est très important, l'aléatoire, et deuxièmement, sélection du résultat de cette évolution.
Alors, vous dites que même si ça soulève un certain nombre de difficultés chez les scientifiques, et si depuis on a émis quelques corrections et réserves à cette théorie scientifique, avant de parler du darwinisme, vous dites que c'est toujours un peu ce qui a cours dans les esprits. Entre autres, vous citez un livre qui a eu beaucoup de succès à son époque, s'appelle Le Monde de Sophie, paru en 1995, d'un certain Gardère, dans lequel en fait est rapportée cette théorie.
Absolument.
Comme une vraie vérité. Alors, vous parlez de premières difficultés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes difficultés? Donc j'en ai relevé deux. La première, c'est que vous dites que les espèces qui existent actuellement apparaissent plus comme les plus chanceuses que comme les mieux adaptées. Vous dites que c'est une première grosse difficulté. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Alors, simplement parce qu'il y a eu des extinctions qu'on a répertoriées, en particulier la fameuse extinction des dinosaures, qui étaient quand même des molosses, c'était quand même des sacrés morceaux, les braves dinosaures, et qui ont été apparemment détruits, l'arrivée d'une météorite qui serait tombée dans le golfe du Mexique, puisque c'est actuellement la théorie qui a l'air d'être la plus plausible. Donc, nuages épouvantables de poussière, vous voyez, qui a couvert l'intégralité du globe terrestre et qui a fait que la température a brutalement chuté. Bon, les œufs de dinosaures, puisque ils étaient ovipares, les œufs de dinosaures n'ont pas survécu. Mais il y en a d'autres qui ont survécu. Les petits roitelets, parce que si un petit roitelet, en deux semaines, vous faites un roitelet. Tandis qu'un dinosaure, il fallait beaucoup plus de temps. Il fallait vraisemblablement au moins un an. Donc les œufs sont tués. Vous savez que la montagne Sainte-Victoire, c'est un tas d'œufs de dinosaures en particulier. Bon. Et donc, les dinosaures disparaissent, mais il y en avait eu d'autres. Il y avait eu des tas de disparitions. On retrouve par exemple dans le schiste de Burgess aux États-Unis, où il y avait des bestiaux qui étaient invraisemblables, du point de vue de complexité des espèces de gigantesques araignées et qui ont complètement disparu. Donc on voit bien qu'en quelque sorte, l'évolution n'a pas été sans à-coups et sans disparition brutale.
Et en l'occurrence, ce n'est pas les plus solides qui ont résisté.
Et non. Et non.
Même si là, on peut dire que c'était un accident d'une certaine manière. C'était...
Oui, mais enfin, le hasard n'est pas ça. C'est-à-dire que la théorie de Darwin, qui était une théorie qui consistait à dire bon ben c'est linéaire, c'est pas vrai, c'est pas linéaire, c'est, et Stephen Gould, qui était un des grands paléontologues de, qui a écrit beaucoup de livres et qui a eu son aura aussi, disait que nous étions le résultat d'une chance. C'était de la chance qui faisait qu'on était là. Et donc, on avait tiré le bon lot.
Alors, la deuxième difficulté que vous pointez du doigt, c'est quand vous dites « Darwin affirmait aussi dans son livre sur l'origine des espèces que la sélection naturelle, si elle se veut aussi vraie, doit bannir la croyance en la création de nouveaux êtres organiques ou en des modifications majeures et soudaines de leur structure. » Est-ce à dire, en fait, qu'il y a de fait des créations de nouveaux êtres
c'est ça,
on peut détecter.
C'est ce qu'espérait Darwin. Mais le problème, c'est que actuellement, il n'y a aucun laboratoire qui est capable de créer une espèce. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une espèce jusqu'à présent ? C'est en fait une entité de vivante qui ne se reproduit que à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire, si vous prenez deux espèces distinctes, il n'y aura pas d'interfécondation entre deux espèces. Bon, donc l'espèce est relativement typée. Bon, il n'y a aucun laboratoire qui est capable de créer une nouvelle espèce. Ils vont créer des avatars d'une espèce. Par exemple, on a vu que si vous prenez des petits papillons, on peut les modifier. Ce qu'on appelle, par exemple, la modification de la phalène du bouleau. La phalène du bouleau, c'est un tout petit papillon qui se collait sur le tronc d'un bouleau blanc. Donc, il était plutôt blanc. Et quand il y a eu l'histoire de la révolution industrielle anglaise, dans la région de Manchester, il y avait énormément de fumée noire. Et donc, la phalène s'est légèrement modifiée, est devenue un peu plus sombre, pour ne pas se faire, évidemment, prendre par un prédateur. Donc, vous voyez, il y a eu des petites modifications. Sur la drosophile, par exemple, sur la mouche, on fait des modifications, mais c'est des modifications qui sont... On ne crée pas un nouvel individu qui est autre chose qu'une mouche.
Voilà, et pour finir, donc pas de création donc de nouveaux êtres organiques, c'est ça ?
Voilà, absolument.
Et modification majeure et soudaine aussi, ce sont toujours des modifications très progressives, c'est ça ?
C'est-à-dire que les modifications qu'on voit, c'est-à-dire sur les phylums, actuellement, on regarde surtout l'ADN, c'est-à-dire les fameuses, quand vous prenez donc les chromosomes, vous avez à l'intérieur, vous avez un certain nombre de perles qui sont indexés avec des lettres, bon, et suivant la manière dont vous les organisez, vous allez avoir tel ou tel type d'individus, et donc c'est comme ça qu'on dit, on est très proche du point de vue de la statistique de ces perles, on est très proche, par exemple, des cochons, on est très proche de ce qui explique qu'on peut faire éventuellement des travaux de recherche sur les médicaments en utilisant des porcs, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont été mises en évidence sur la proximité, mais une proximité qui est toute relative, c'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, on n'est quand même pas des singes, quoi.
Alors, pour finir, avant qu'on fasse une première pause, aujourd'hui, la théorie darwinienne, est-ce qu'elle continue à être globalement vue comme une théorie, même si elle a subi quelques modifications ou quelques corrections, comme une théorie fondamentale dans la communauté scientifique ?
Mais bien sûr, mais c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que c'est, on en fait un absolu, c'est-à-dire si vous essayez de dire, attendez, il y a quand même quelques trous, et on verra peut-être les trous tout à l'heure, il y a quand même quelques trous et vous ne les expliquez pas, on est considéré comme réactionnaire d'imaginer quelque chose qui puisse mettre en cause. Là, par exemple, si vous prenez Pascal Pic, qui est quelqu'un qui travaille au Collège de France, c'est un pourfendeur de tout ce qui n'est point darwinien. Il est impensable de ne pas être darwinien.
On va faire une première pause. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Créationnisme, dessin intelligent, darwinisme et la science dans tout ça, Jacques Vautier, aux éditions François-Xavier de Guibert. Voilà cette émission ce matin donc sur la théorie de l'évolution, que dit l'Église, avec Jacques Vautier. Jacques Vautier, ancien directeur du département mathématique de l'université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Paris 6, et auteur donc entre autres de Créationnisme, Dessin intelligent, Darwinisme, trois petits points, et La science dans tout ça, paru aux éditions François-Xavier de Guibert. Alors, vous avez eu la bonté de nous aider à faire ce parcours scientifique, Linné, Buffon, Lamarck, Darwin. Et puis vous nous avez dit qu'aujourd'hui, vous nous avez rappelé au début quel était un peu l'état du débat. Vous disiez avant la pause qu'aujourd'hui, il restait assez hors de question de critiquer en fait Darwin. Vous nous avez dit quelques mots de ce qu'on appelle donc le darwinisme, qui est comme un dérivé philosophique en fait des découvertes de Darwin. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu sur ce darwinisme et sur l'ampleur de son succès et ce dont il postule?
Alors, le darwinisme a un impact rampant. C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, pourquoi pas, je veux dire, ouais. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est ce que cela implique. Ça implique en particulier que nous ne sommes que de la matière, puisque c'est en fait des mécanismes biologiques qui vont faire que l'on va émerger. Alors en particulier, le fameux ADN, donc c'est toujours ces petites perles qui sont à l'intérieur de nos chromosomes, vont être tellement typées de notre état que elles vont remplacer ce qu'on appelle l'âme spirituelle. Vous n'êtes plus rien. Si vous demandez par exemple quelqu'un comme Hubert Reeves, il y a eu une femme qui avait eu un cancer du sein qui était pratiquement arrivée à la fin de sa vie, qui était une journaliste, et elle en est réchappée miraculeusement. Elle a voulu savoir ce que disaient les scientifiques de la mort. Et elle a été très surprise de voir que pour une très grosse quantité d'entre eux, la mort, en particulier pour Hubert Reeves, nous sommes qu'un fleuve, nous allons nous jeter dans la mer. C'est-à-dire que nous sommes une cathédrale de molécules, et cette cathédrale de molécules va exploser, et des molécules vont se disperser, point final. Vous voyez le genre d'angoisse que ça peut engendrer. Et donc pourquoi? Tout simplement parce que l'âme qui était mise en évidence, toute la réflexion des Grecs, depuis les Grecs, c'est-à-dire Platon, Aristote, c'était l'essentiel, c'est-à-dire la finalité de l'être humain. Quelle est sa finalité? La finalité, pour un darwinien, elle n'existe pas. Il n'y a pas de finalité. C'est un bricolage qui a fait qu'on a surgi de nulle part. En particulier, il y a eu un bouquin de Jacques Monod qui a eu le hasard et la nécessité, qui a eu son grâce à un succès, qui disait, il faut s'en faire, on est effectivement dans une configuration qui est une configuration du vide.
Alors vous dites que ce darwinisme en fait s'est largement développé aussi parce que ça a été concomitant avec l'explosion de ce qu'on appelle le scientisme.
Bien sûr.
Donc à la fin du 19e siècle, vous pouvez rappeler peut-être en quelques mots ce que c'est. Et derrière, je vous pose une autre question, c'est qu'on se dit, c'était quand même une autre époque. La science a parfois montré ses limites depuis, donc on pourrait imaginer que la théorie de Darwin et surtout le darwinisme ait un petit peu de plomb dans l'aile.
Bien sûr, mais donc le scientisme, ça a été le succès de la théorie mécanique de Newton, donc qui a permis en particulier à Le Verrier de trouver une planète simplement par le calcul. Donc on s'est dit, C'est incroyable. On est dans une capacité de comprendre le monde simplement à partir des calculs mathématiques. Bien. Or, le problème, évidemment, c'est que le darwinisme n'est pas, au sens fort du terme, c'est-à-dire au sens des scientifiques purs et durs, si je puis dire, n'est pas une science. Pourquoi c'est pas une science? C'est un discours scientifique qui a sa valeur en lui-même, qui est donc critiquable, qui est donc révisable, mais qui, de fait, ne peut pas être estampillé du nom de science. Pourquoi? Parce que la science en elle-même est une science qui doit être prédictive. Une science est prédictive. Si vous prenez par exemple toute la théorie d'Einstein, la théorie de la mécanique quantique actuelle, les deux grandes théories de la physique, vous êtes capable de faire des prévisions. Bon. Or, le darwinisme ne prévoit pas du tout quel type d'espèce va sortir du chapeau. On n'en sait rien. Il dit, ça s'est passé comme ça. Ok, d'accord, c'est intéressant, mais c'est pas une science au sens de... Elle ne peut pas être falsifiée au sens de ce qu'on appelle le falsifationnisme, c'est-à-dire la capacité de monter une expérience qui met en cause une hypothèse scientifique. Par exemple, si vous faites une hypothèse scientifique, vous allez commencer par essayer de la détruire. Hein. Il y avait sur la porte d'un de mes collègues de Berkeley, il y avait une pancarte disant « Ici, vous savez, se trouve le lieu le plus important de toutes les théories qui sont mortes nées. » Effectivement, parce que vous pouvez avoir des idées tout à fait génial, mais le problème, c'est qu'elles sont confrontées à la réalité, et là, elles se tuent. Et donc, on est obligé de les abandonner. Bon, pour le moment, vous ne pouvez pas mettre en cause le darwinisme, puisque vous ne pouvez pas monter une expérience permettant de dire, ah, mais attendez, comment vous faites? Les seules expériences que vous pouvez faire sont des expériences qui sont de type extérieur. En particulier, j'étais dans des jurys de thèse à la Sorbonne, puisque j'avais fait un peu de philosophie avec Ricoeur et quelques autres. Donc, il y a eu une thèse intéressante.
Ricoeur, philosophe. Hein,
philosophe, voilà. Paul Ricoeur. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de se poser la question de l'intelligence des espèces. Il y a une intelligence. Si vous prenez, par exemple, les stratégies, vous avez en particulier je crois que c'est une alouette, quand elle voit arriver un renard, qui veut essayer de manger les œufs de son nid qui est en fait au ras du sol, elle simule le fait qu'elle a une aile cassée. Et elle s'envole en voltant, et le renard la poursuit. Et elle l'emmène très loin, et il perd la trace du nid. On se pose la question, point d'interrogation. Je ne parle même pas des stratégies de certains oiseaux qui font des sortes de couloirs de fleurs pour que la femelle vienne plutôt chez l'un plutôt que chez l'autre, bon, etc. Enfin, on peut multiplier les exemples de trouvailles, je veux dire, dans la nature. Et donc, il y a eu donc deux grosses thèses qui ont été écrites, une en particulier par Marcel François qui s'appelle « Procession dialectique structure » où il regarde les processions angéliques en regardant l'intelligence, c'est-à-dire les intelligences séparées qui sont en fait... qui sont
d'accord,
à côté.
Mais juste pourquoi vous nous précisez tout ça?
Parce que ce que je veux dire, c'est que le darwinisme n'est pas capable d'expliquer l'intelligence. C'est-à-dire, pour lui, l'intelligence, c'est un faux problème. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'intelligence animale, il n'y a que des stratégies de survie. C'est le fameux struggle for life. Donc, et c'est pour ça que c'est extrêmement réducteur. C'est-à-dire que par rapport à Aristote qui est émerveillé par la nature, c'est-à-dire il regarde la beauté. Pour Darwin, c'est pas le problème. Hein.
Alors, et l'Église dans tout ça? Alors, je commence par cet événement d'une certaine manière que vous citez dans votre ouvrage. Jean-Paul II, donc, devant l'Académie pontificale, donc Saint Jean-Paul II, ancien pape, entre autres, donc le 22 octobre 1996, aurait fait une déclaration qui laissait entendre que l'Église ne s'opposait pas à l'acceptation d'une partie de la théorie de l'évolution. Alors semble-t-il, ça n'a pas commencé avec lui, vous allez nous le préciser. Toujours est-il que dans Le Monde, dans le journal Le Monde, à cette époque, Henri Tinck, qui était responsable des questions religieuses, titrait presque que l'Église, tout comme pour l'affaire Galilée, en fait réhabilitait Darwin. Alors, redites-nous peut-être la nature du différend que l'Église a eu avec Darwin. Est-ce qu'au départ, elle a eu un différend aussi avec sa théorie scientifique? Et qu'a dit exactement Jean-Paul II à l'occasion de ce 22 octobre 1996?
Alors, le Saint-Père prend acte de l'intelligence humaine en regardant un mécanisme ou regardant une histoire, puisque c'est une histoire, l'évolution, mais dit, attention, on ne peut pas réduire l'être humain ou les êtres simplement à des cathédrales de molécules. Nous ne sommes pas simplement du matériel, du matérialisme pur et dur. Nous avons une donnée qui est une donnée spirituelle, et cette donnée spirituelle ne va pas, en quelque sorte, émerger de l'empilement de molécules. C'est quelque chose qui est au-delà. Donc il dit, nous pouvons parfaitement accepter, d'une certaine manière, un phénomène d'évolution, qui évidemment ne correspond pas à ce qu'une lecture directe et simplement radicale ou textuelle de Genèse 1, puisque ça s'est fait par certain nombre d'Américains qui le lisent brut de décoffrage.
On en parlera après, oui.
Et donc il dit, non, effectivement, on peut parfaitement admettre ça, mais attention, d'abord, il n'a jamais prononcé le mot Darwin pendant le discours, contrairement à ce que raconte Tink. Et deuxièmement, il n'a jamais dit que le darwinisme expliquait tout. Il a dit non, c'est une théorie parmi d'autres. Et effectivement, puisqu'on voit réapparaître maintenant un peu de lamarckisme, c'est-à-dire une adaptation des espèces à un contexte qui fait que c'est plus favorable en quelque sorte d'avoir ce type de stratégie plutôt que tel autre. Et donc, on voit qu'on est dans un espèce de mixte actuellement entre du lamarckisme et du darwinisme. Le darwinisme faisant sortir les choses ex nihilo, en quelque sorte, au hasard, et constatant que ça existe comme ça, alors que pour Lamarck, c'est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une pression, en quelque sorte, du milieu, qui fait que c'est plutôt ce type de choses qui va être développé plutôt que tel autre.
Donc Jean-Paul II, donc ce 22 octobre 1996, donc, aurait dit, en gros, qu'il y a des théories de l'évolution, c'est ça ?
Et absolument.
Qu'il faut savoir se pencher, enfin, il faut savoir reconnaître leur validité scientifique.
Absolument,
mais
il ne prend pas position.
Il n'a pas pour autant, évidemment, cautionné tous les dérivés philosophiques qu'il y a eu à cette découverte.
Non. D'ailleurs, il le dit explicitement dans son discours. Hein. Il dit, il n'est pas question de réduire au matérialisme pur le résultat de l'évolution. Ça, il n'en est pas question.
Voilà, vous dites dans votre ouvrage aussi que l'Église n'avait pas attendu Jean-Paul II. Alors ça, moi j'avoue que je ne l'avais jamais lu. Rappelant, et Jean-Paul II lui-même aurait rappelé que dans l'encyclique Humani Generis 1950 de Pie XII, Pie XII avait déjà affirmé qu'il n'y avait pas d'opposition entre l'évolution et la doctrine de la foi sur l'homme. L'autre chose évidemment qui a parfois encore dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, c'est que, donc cette précision faite après cette déclaration de Jean-Paul II, c'est que l'Église, en fait, prendrait un peu trop au pied de la lettre, ou en tout cas un certain nombre de chrétiens, le récit de la Genèse. On appelle ça même le créationnisme, et vous l'avez dit à plusieurs fois, aux États-Unis, on sait qu'il est assez populaire dans certains milieux...
Ah oui, il y a des États où le créationnisme est obligatoire dans l'enseignement.
Des États entiers.
Ah oui. Et il y a eu des procès. Des procès contre des écoles,
oui,
qui faisaient un autre type d'enseignement.
Ça, vous le citez dans votre ouvrage.
Voilà. Oui, ça, c'était...
Alors, redites-nous ce qu'est le créationnisme et justement, quelle est sa popularité aujourd'hui dans le monde.
Alors, pardon, le créationnisme, c'est de prendre le texte de Genèse 1 à la lettre. C'est-à-dire, il y a eu un certain nombre de créations, hein, si vous prenez le texte de Genèse 1, en particulier, il y a d'abord... la lumière, ensuite il y a la matière, ensuite il y a la séparation des eaux du haut et des eaux du bas, ensuite il y a l'arrivée des plantes, et ensuite il y a les luminaires. Alors évidemment, si vous prenez la photosynthèse qui nécessite évidemment pour l'arrivée de l'oxygène, qui nécessite évidemment le soleil pour provoquer la photosynthèse, les gens disent, écoutez, c'est pas sérieux, scientifiquement, ça ne tient pas la route. Bien. Et ensuite, il y a les animaux qui apparaissent, et ensuite, il y a l'homme et la femme qui apparaissent et qui, donc, disposent du lieu. Bien. Alors, le créationnisme, donc, est déjà, d'un point de vue scientifique, absurde, au sens strict du terme. Il ne peut pas y avoir de plantes qui survivent s'il n'y a pas de soleil. Or, le soleil apparaît après. Donc, les créationnistes, en quelque sorte, sont pris au piège de la lecture même du texte, qui est une lecture, donc, exactement, ligne à ligne. Quoi.
Mais alors, comment expliquer aujourd'hui qu'il y ait des créationnistes, et voire même qu'aux États-Unis, ils aient un tel succès?
C'est simplement parce que vous avez un respect, si vous voulez, du texte biblique tel que les gens disent, il ne faut pas changer un iota.
Mais à l'échelle d'une personne, ça peut être compréhensible, mais à l'échelle d'un État, c'est difficile à imaginer.
Mais si vous voulez, il y a quand même une infiltration du point de vue politique de groupes de pression. qui font que l'État, le gouverneur de l'État est amené à prendre des positions qui sont peut-être pas conformes à la science. Donc ils ont fait venir des scientifiques, les scientifiques ont dit mais qu'est-ce que c'est que votre histoire, ça tient pas la route. Donc c'est monté jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême a dit on doit enseigner une théorie scientifique.
Donc en tout cas pour l'Église catholique, donc la Genèse est évidemment un récit de sagesse et n'a évidemment aucune prétention scientifique. Il faut évidemment le préciser. Après Jean-Paul II, vous citez vous aussi le cardinal Ratzinger, donc Benoît XVI, qui lui aussi aurait eu quelques interventions sur ce sujet, interventions clés, et qui prolonge un peu les propos du pape Jean-Paul II. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, entre autres, vous citez un ouvrage intitulé « Foi, vérité, tolérance », où le cardinal Ratzinger, en 2002, parlait aussi de cette théorie de l'évolution.
Oui, alors, même chose, enfin, on connaît la puissance intellectuelle de Benoît XVI. Enfin, moi, j'ai été très impressionné par sa capacité, en particulier le discours de Ratisbonne, qui a été tellement mal compris que c'était épouvantable. Enfin, j'avais écrit un livre, d'ailleurs, sur le sujet pour dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, bon. Et donc la lecture de l'évolution par le cardinal, c'est de dire, toujours un infini respect par rapport à la recherche scientifique, donc la recherche d'intelligence pure. C'est-à-dire, il ne met aucun frein. Hein, il ne dit pas, si vous commencez à réfléchir sur la question, vous allez être anathème. Ça, c'est pas du tout la question. Il dit, vous avez toute liberté pour réfléchir sur un domaine scientifique, mais n'en faites pas un absolu. Ce qui est actuellement le problème du darwinisme, c'est-à-dire hors du darwinisme, point de salut. En particulier, la grosse question du darwinisme, je vais juste faire une incise, c'est le problème de la morale, de l'éthique. Comment est-ce que l'éthique sort du darwinisme?
C'est-à-dire,
quel est le comportement humain, si vous voulez, par exemple, le fait que vous avez des gens qui vont se comporter plutôt bien avec d'autres, que la société va plutôt s'organiser, etc. Bon. Ben, le darwinisme est incapable de répondre à ça. Et si c'est struggle for life, vous êtes en fait en train, vous allez utiliser tous vos moyens pour détruire le voisin, pour avoir le bénéfice de ce que vous êtes. Bon, et c'est un petit peu ce qui était derrière, en particulier le nazisme, c'est-à-dire la race aryenne est meilleure, et donc tout ce qui n'est pas race aryenne, on détruit, puisque de toute façon c'est dans la logique. Puisque tout ce qui est inférieur doit être détruit. Donc, struggle for life, allons-y, on va donner un coup de main. On détruisait donc les gens qui étaient malades, les malportants, les handicapés, etc. Et hop, tout ça, ça doit disparaître, puisque de toute façon, ça va disparaître. Donc le matérialisme...
Les darwiniens n'arrivent pas à répondre, ne serait-ce qu'à cette question de la conscience
absolument,
ou de la morale.
Absolument pas, ils sont bloqués sur ça, et c'était là-dessus que le cardinal regardait. Il disait, attendez... On ne peut pas faire émerger une capacité de regard sur la morale et l'éthique des personnes, donc le bien et le mal.
Sans parler de la dimension spirituelle.
Exactement, sans parler de la dimension spirituelle. Et là, la dimension spirituelle, elle est inatteignable avec le darwinisme.
Alors, pour finir, j'aimerais qu'on parle du dessein intelligent. Vous allez nous expliquer ce que c'est en quelques mots, et puis après, on va parler un petit peu d'un article. Alors, ceux qui suivent ces questions s'en souviendront, parce qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. C'était à l'occasion, je crois, d'un anniversaire, non, autour de Darwin, où le cardinal Schönborn, donc le cardinal archevêque de Vienne, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'Église universelle, on sait que c'est un des tout proches. Ça a été un des tout proches de...
C'est un des rédacteurs du catéchisme,
voilà,
de l'Église catholique.
Donc, hein. Tout proche de Jean-Paul II, tout proche du cardinal Ratzinger, donc du pape Benoît XVI, et aujourd'hui tout proche aussi, assez proche en tout cas, du pape François. Donc cardinal archevêque, on va dire, d'une dimension et d'une aura internationale, qui, dans un article du New York Times le 7 juillet 2005, la teneur de l'article, vous allez nous le dire, pouvait donner l'impression que l'Église, en fait, se rangeait plutôt, justement, à mi-chemin, comme ça qu'on peut, enfin, je sais pas si c'est tout à fait juste, mais derrière le dessein intelligent, voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que le dessein intelligent et quelle était la teneur de cet article du cardinal Schönborn?
Le problème du dessein intelligent, c'est de dire, écoutez, quand on regarde la nature, on voit que nécessairement, il y a un créateur qui a un génie, qui a mis en place un certain nombre de choses, et que on ne peut pas l'éviter. C'est le fameuse histoire de l'époque de Darwin, où un certain Paley, PA et le Y, disait, si je trouve une montre dans un champ, je ne pourrais pas dire qu'elle a émergé du champ, je sais qu'il y a quelqu'un qui a construit cette montre. Et donc, c'est un petit peu l'extrapolation de cette histoire-là qui s'appelle le dessin intelligent. Mais le cardinal Schönborn faisait bien attention de faire la distinction entre quelque chose qui est au niveau de la création et de l'homme, et qui est au niveau, enfin, on sait très bien que chez saint Thomas d'Aquin, la création est un mystère qui est, il le dit dans la Summa, est un mystère qui est aussi profond que la très sainte Trinité, la notion de création. Donc, la notion d'humanité, de vie, la vie, où on passe son temps à essayer de trouver la vie partout, la vie est un mystère. Il n'y a que des êtres vivants. Ça, c'est ce que Claude Bernard disait. La vie, je ne connais pas. Jamais vous rencontrez la vie. J'ai rencontré des êtres vivants. Bon. Et d'autre part, il y a l'homme qui apparaît. Donc, les trois grands mystères, la création de l'univers, l'apparition de la vie et ensuite l'apparition de l'homme, sont des éléments qui, effectivement, donnent pointe vers quelque chose qui est une donnée transcendante, mais qui n'est plus dans le domaine scientifique. Et donc le cardinal Schönborn avait donc écrit cet article pour faire justement la distinction entre les deux, c'est-à-dire foi et raison. Donc c'est la fameuse question de faire attention des différents niveaux et de ne pas mélanger tout. Et parce que, en particulier, le darwinisme devient une théorie matérialiste, hein, qui était, dont en particulier un Anglais qui s'appelle Dawkins a fait un cheval de bataille. Dawkins a écrit un livre qui s'appelle God Delusion, c'est-à-dire la maladie mentale qui s'appelle Dieu.
Alors peut-être pour revenir juste sur le cardinal Schönborn, parce que l'émission va toucher à sa fin, est-ce que de fait le cardinal Schönborn défendait ce qu'on appelle le dessin intelligent? Donc le dessin intelligent, je vous dis avec mes mots, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est donc une théorie qui pour le coup aussi a ses soutiens, j'allais dire ses fans, mais enfin en tout cas ses soutiens, y compris d'une partie de la communauté scientifique, disant qu'en fait, qui n'annule pas en fait toutes ces découvertes scientifiques que l'on vient de citer, mais qui dit qu'il y a forcément une intelligence supérieure qui derrière orchestrerait ou serait en tout cas à la racine ou à la nature de la création que l'on voit et donc des différentes théories scientifiques qui
c'est exactement
qui
ça. C'est exactement
et
ça.
Est-ce que le cardinal Schönborn avait pris position en
Alors
fait,
le cardinal Schönborn nuance d'une certaine si manière. Vous voulez, cette position-là en disant on ne peut pas dire qu'il n'y a pas effectivement quelque chose qui est une intelligence compte tenu de ce que l'on peut constater dans la nature. Mais il n'y a aucun élément pour en donner la preuve.
Voilà. Et alors, dites.
Ça pointe, si vous voulez.
Dites l'écho que ça avait trouvé, parce que ça avait, cet article, donc, paru dans le New York Times, avait derrière entraîné une.
Ah, bah, c'était l'abomination de la désolation, bien entendu, parce qu'il repointait vers un créateur, vous comprenez. Or, si vous prenez même les théories scientifiques contemporaines, le nombre de théories qui sont. C'est une autre émission, si vous voulez. Ceux qui pointent. Qui ont essayé de détruire la notion de créateur, c'est phénoménal. On se tord la tête pour essayer de démontrer qu'il n'y a pas de créateur. En particulier sur la notion de récurrence infinie. C'est-à-dire des Big Bang suivis d'un Big Crunch, qui suivent d'un Big Bang, qui suivent d'un Big Crunch. Donc on est dans un phénomène cyclique, on tourne. Et donc il n'y a plus besoin de créateur.
Alors, est-ce à dire, parce qu'on a entendu dire aussi que le cardinal Schönborn, compte tenu de son autorité dans l'Église, était revenu un petit peu sur les propos qu'il avait tenus dans cet article, et que dans le fond, l'Église ne cautionnait pas non plus le dessin intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre pour finir sur cette
question? Elle ne le cautionne pas dans un sens de sagesse, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle se rend compte, elle dit...
De sagesse ou de science, en l'occurrence
La sagesse de l'Église est de ne pas le cautionner en tant que science. D'accord? Elle dit... Chacun chez soi et Dieu pour tous. Donc, elle dit, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a effectivement une finalité au niveau de la nature, ce qui était complètement détruit par Darwin, plus de finalité. Mais elle dit, on ne peut pas abandonner la finalité, parce que la finalité, c'est toute la métaphysique et toute la grandeur de l'homme.
Eh ben, merci beaucoup Jacques Vautier, merci de votre patience avec nous, d'être venu ce matin nous parler donc de Darwin, du créationnisme et du dessin intelligent. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Créationniste, dessin intelligent, darwiniste, justement, trois petits points, et la science dans tout ça, paru aux éditions François-Xavier de Guibert. Merci beaucoup, cette émission
Je vous en prie.
Était réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Thank you.